Etwar se remit en marche, cherchant les mouettes au-dessus de la rivière. Et comme il allait, les versants du ravin se resserraient à nouveau et il arriva jusqu'aux abords d'un goulet qui était tout bruissant du fracas des eaux. Et baissant les yeux, Etwar vit un spectacle qui lui parut une merveille. Une houle sauvage remontait la passe et luttait contre la rivière qui s'obstinait dans son cours. Et voilà qu'une lame se dressa, tel un mur presque jusqu'aux cimes des collines, toute couronnée d'écume qui s'éparpillait au vent. Et la rivière fut vaincue et refoulée, et le flux montant s'engouffra dans la passe et, mugissant, la noya sous une eau profonde. Et s'entrechoquaient les galets roulés par les flots dans un grondement de tonnerre. Ainsi, grâce à l'appel des oiseaux de mer, Etwar fut sauvé d'une mort certaine sous le flux de la marée, particulièrement forte en cette saison de l'année et sous le puissant vent du large. Mais pour lors, Etwar fut rebuté par la furie des étranges eaux et il se détourna et s'en alla vers le sud. Et ainsi, il ne rejoignit point les longues rives de l'estuaire du Drengist, mais erra quelques jours encore dans un pays rude et dénué d'arbres. Et cette solitude était balayée par le vent de la mer, et tout ce qui y poussait, herbe ou buisson, penchait toujours vers l'aurore de par la prédominance de ce vent qui soufflait de l'ouest. Etwar franchit de la sorte les frontières du Nevrast, où Turgon avait jadis vécu. Et à son insu, car les crêtes des falaises aux confins du pays étaient plus élevées que les pentes de l'autre versant, il atteignit enfin les noires rives de la terre du milieu, et il vit la grande mer, Belegaer, la sans rivage. Et à cette heure, le soleil se couchait derrière les margelles du monde, tel un incendie furieux. Et Etwar se tenait debout sur la falaise, les bras grands ouverts, et un âpre languir emplissait son cœur. On dit qu'il fut le premier homme à atteindre la grande mer, et que personne, hormis les Eldar, n'a senti plus puissamment le désir qu'elle suscite. Etwar s'attarda de nombreux jours au Nevrast, et cela lui sembla bon, car cette terre, défendue par des montagnes au nord et à l'est et proche de la mer, elle était plus tempérée et plus accueillante que les plaines du Ithlum. Il était accoutumé depuis longtemps à vivre seul en chasseur dans les solitudes sauvages, et la nourriture ne lui fit pas défaut, car le printemps s'affairait au Nevrast, et l'air bourdonnait de la rumeur des oiseaux, ceux qui vivaient en multitude sur les rivages de la mer, comme ces autres qui foisonnaient dans les marais de l'Inaewen, nichés dans le creux du pays. Mais en ces temps, aucune voix, ni d'homme ni d'elfe, ne se faisait entendre dans les solitudes. Jusqu'aux rives du grand lac parvint Etwar, mais ses eaux étaient hors d'atteinte pour lui, car de vastes bourbiers et d'impénétrables forêts de roseaux l'environnaient de toutes parts. Et bientôt il rebroussa chemin et s'en retourna sur la côte, car l'attirait la mer, et il n'aimait guère demeurer longtemps là où il ne pouvait entendre le murmure des vagues. Et sur la grève, Etwar découvrit les premières traces des Noldor de jadis. Car parmi les hautes falaises taillées par la mer au sud du Drengist, il y avait de nombreuses criques abritées et des plages de sable fin jonchées de sombres rochers brillants. Et en s'y rendant, Etwar croisa souvent des escaliers sinueux taillés dans la pierre vive, et au bord de l'eau se voyaient les ruines de quais construits avec d'énormes blocs de pierre arrachés à la falaise où avaient un jour mouillé les navires des elfes. Longtemps s'attarda Etwar dans ces régions, contemplant la mer toujours changeante. Et s'écoulèrent le printemps, puis l'été, et lentement s'épuisait l'année, tandis que l'obscurité allait s'épaississant en Beleriand. Et voici que vint l'automne, qui devait voir s'accomplir le destin de Nargothrond. Et il se peut que les oiseaux aient entrevu de loin le cruel hiver qui s'annonçait, car ceux qui avaient coutume de partir vers le sud s'assemblèrent tôt pour leur envol, et d'autres espèces qui demeuraient d'ordinaire dans le nord quittèrent leur nid pour venir au Nevrast. Et un jour que Etwar était là, assis sur la plage, il perçut la rumeur et le sifflement d'ailes puissantes, et, levant les yeux, il vit sept cygnes blancs qui, déployés en flèche, volaient en direction du sud. Et passant au-dessus de lui, ils virèrent soudainement et tournoyèrent pour se poser sur l'eau dans un grand fracas et un jaillissement d'écume. Or, Etwar aimait beaucoup les cygnes, qu'il avait bien connus sur les étangs gris du Mithrim, De plus, le cygne était l'emblème d'Anaël et de ses parents nourriciers. Aussi se leva-t-il pour accueillir les oiseaux, et il les héla, s'émerveillant de les voir, à ce qui lui sembla, plus forts et plus fiers qu'aucun de leur espèce qu'il eût rencontré auparavant. Mais ils battirent des ailes et poussèrent des cris rauques, comme pris de fureur contre lui, et voulant le chasser du rivage. Puis ils s'arrachèrent de nouveau à grand bruit de l'eau, et de nouveau le survolèrent, et de si près que le froissement de leurs ailes souffla sur lui comme une brise stridente. Et décrivant une large courbe, ils s'élevèrent dans les airs et disparurent vers le sud. Et s'écria Tuor : Voici encore un autre signe que j'ai trop tardé. Et il grimpa de rechef jusqu'à la cime de la falaise, et juché là, il aperçut les cygnes qui tournoyaient dans les hauteurs. Mais lorsque, obliquant vers le sud, il entreprit de les suivre, promptement, ils s'éloignèrent. Or donc, Tuor chemina vers le sud, longeant la côte, près de 7 jours pleins. Et chaque matin, il était éveillé à l'aube par la rumeur des ailes au-dessus de sa tête, et chaque jour les cygnes reprenaient leur essor, et il les suivait. Et comme il allait, les grandes falaises se faisaient moins abruptes, et leurs cimes se tapissaient d'herbes fleuries. Et au loin, du côté du levant, des bois jaunissaient dans le déclin de l'année. Mais face à lui, et allant toujours se rapprochant, il voyait une ligne de collines lui barrant la route qui se déployait vers l'ouest, culminant en une haute montagne. Une sombre tour casquée de nuages et qui se dressait sur de puissants épaulements, dominant un vaste promontoire verdoyant qui pointait vers le large. Ces collines grises étaient les contreforts occidentaux des Eredwethrin, la barrière nord du Beleriand. Et la montagne n'était autre que le mont Taras, le plus occidental de tous les sommets de ce pays. Et sa cime était le premier signe d'une terre que de très loin en mer, le marin entrevoyait lorsqu'il approchait des rivages mortels. À l'abri de ces longs versants, Turgon avait vécu au jour d'autrefois dans les hautes salles de Vinyamar, le plus ancien des ouvrages de pierre qu'érigèrent les Noldor sur leur terre d'exil. Et là s'élevait encore la forteresse, désolée mais immuable, surplombant de vastes terrasses qui donnaient sur la mer. Les années ne l'avaient pas ébranlé, et les serviteurs de Morgoth l'avaient négligé. Mais le vent et la pluie et le gel lui avaient infligé leur sceau, et sur le couronnement de ses murs et sur les larges bardeaux de ses toits, poussaient à foison ces grises verdures qui, se nourrissant de l'air salé, s'épanouissent jusque dans les rainures de la pierre nue. Or donc Tuor atteignit les vestiges d'une route perdue, et il passa entre des tertres gazonnés et des pierres inclinées. Et à la tombée du jour, il pénétra dans l'antique grande salle et ses vastes cours éventées. Nulle ombre de peur ou de mal ne hantait les lieux. Mais l'émerveillement s'empara de Tuor à la pensée de tous ceux qui avaient vécu là et s'en étaient allés, nul ne savait où. Le peuple fier, épargné par la mort, mais condamné par le destin, venu des terres lointaines au-delà de la mer. Et il se tourna et contempla, comme souvent leurs yeux avaient dû contempler, les flots agités chatoyant à perte de vue. Et se détournant à nouveau, il vit que les cygnes s'étaient posés sur la terrasse supérieure et se pressaient devant la porte ouest de la grande salle. Et ils battaient des ailes, et Tuor crut comprendre qu'ils lui enjoignaient d'entrer. Alors il monta le large escalier, à moitié dissimulé sous l'armerie et la coque lourde, et il passa sous le puissant linteau et pénétra dans l'ombre de la demeure de Turgon. Et il parvint enfin à une salle aux vastes colonnes. Si elle lui était apparue immense du dehors, combien spacieuse et magnifique il la trouva de l'intérieur. Et par révérentielle crainte, il souhaita ne pas éveiller les échos de sa solitude. Il ne pouvait rien distinguer, sauf à l'extrémité est de la salle, un trône sous un dais. Et aussi légèrement qu'il le put, il se dirigea vers le trône. Mais ses pas résonnèrent sur le sol pavé comme la foulée du destin, et les échos se bousculaient devant lui de colonne en colonne le long de la galerie. Et comme il se tenait devant le trône dans la pénombre et observait qu'il avait été taillé dans un seul bloc de pierre et recouvert de signes étranges, le soleil couchant affleura la haute fenêtre sous le pignon occidental et un rayon de lumière frappa le mur devant lui et scintilla, lui sembla-t-il, sur du métal bruni. Et Tuor, émerveillé, vit que sur le mur, derrière le trône, étaient suspendus un écu et un grand haubert, un aume et une longue épée dans son fourreau. Le haubert brillait comme façonné d'argent pur, et le rayon de soleil le pailletait d'or. Mais le bouclier avait une forme qui parut singulière à Tuor, car il était long et fuselé, et il était blasonné d'une blanche aile de cygne sur champ d'azur. Et Tuor parla, et sa voix sonna comme un défi sous la voûte. « En vertu de ce cygne, je m'en vais prendre par-devers moi ces armes, et sur moi le destin dont elles sont porteuses. » Et il souleva le bouclier, et le trouva léger et bien plus maniable qu'il ne l'aurait cru. Car ce bouclier était fabriqué, semble-t-il, en bois, mais habilement bardé par les elfes forgerons de feuilles de métal d'une finesse extrême mais très résistante. Et ainsi se trouvait-il protégé des vers et des intempéries. Or donc Tuor se revêtit du haubert et coiffa le haume, et il ceignit l'épée. Et le fourreau et la ceinture étaient noirs avec des boucles d'argent. Armé de la sorte, il sortit de la salle de Turgon et se tint sur le cap Taras, dans la lumière écarlate du soleil. Personne n'était là pour le contempler, cependant que tout étincelant d'or et d'argent, il tournait son regard vers l'ouest, et il ignorait qu'en cet instant, il apparaissait comme un des puissants de l'ouest et digne vraiment d'être père des rois, le père des rois des hommes, au-delà de la mer, car tel, effectivement, devait être son destin. Mais revêtu de ses armes, un changement s'opéra en Tuor, fils de Uor, et son cœur se fit superbe dans sa poitrine. Et comme il s'éloignait des portes, les cygnes lui rendirent hommage, et chacun s'arrachant une rémige, ils la lui offrirent, posant leur long cou sur la pierre à ses pieds. Et il prit les 7 plumes et les piqua dans le cimier de son haume. Et les cygnes, immédiatement, se relevèrent et s'envolèrent vers le nord, dans le sillage du couchant, et Tuor ne les vit jamais plus.